Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
On va parler de Roe v. Wade, de droit à l'avortement et de tracking dans la tech. On va aussi parler de Amazon qui ressuscite les morts, plus ou moins, de Twitter qui devient un blog, possiblement. Et c'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu, actualité, tech, internet et gadgets, toute l'actu, actualité. On résume tout à partir du moment où ça concerne la tech. Et aujourd'hui, on a un gros programme, comme vous l'entendez. Et heureusement, moi, je vous avoue que je ne serai pas à la hauteur de ce programme, mais on a une personne absolument fabuleuse qui va me permettre de moins me ridiculiser que d'habitude, puisque Lucie Ronfaux est avec nous encore une fois. Salut Russie, comment ça va?
Bonjour, sans pression.
Non mais écoute, tu sais, il y a des gens qui rejoignent le Patreon là, comme ça, Eric, tout à coup, pendant l'émission, puisqu'on est en live, et c'est complètement fou. Je salue le Twitch, et justement, j'en profite pour remercier ceux qui ont rejoint. Je reviens tout de suite, hein, mais c'est l'occasion, je reviens tout de suite, Lucie. FabC01, qui... C'est possiblement Fabrice, mais moi, je pense que c'est fabuleux. C'est 01. Olivier D. et Raph, le producteur de l'épisode. Merci à vous tous. Vous savez, c'est ceux qui participent au Patreon, qui ont rejoint le Patreon depuis la semaine dernière. Donc, un grand, grand merci à vous tous qui permettez à l'émission d'exister. Et justement, l'émission, on va la faire avec Lucie. Et je disais fabuleuse. Et si je pouvais, on aurait Lucie tout le temps. Mais elle est très occupée parce qu'elle est une journaliste à succès, de renom, et notamment avec la... Tiens, je voulais te poser une question à propos de ta newsletter, Règle 30. Ouais. Règle 30, bon, la plupart des gens savent, j'imagine, c'est la règle selon laquelle il n'y a pas de femmes sur Internet. Mais je voulais te demander, est-ce que tu as aussi choisi ce nom parce qu'il y a règle dedans et que du coup, tu te disais, voilà, ça fait encore plus féministe de parler de règles et de sortir le tabou? Ou non, c'est juste parce que c'est vraiment Règle 30.
Écoute, c'est une bonne question. Je crois que j'y avais pas vraiment pensé à l'époque. On avait effectivement pensé à la rule 30, qui est cette fameuse règle qui dit There is no women on the internet. On trouvait ça un peu cynique, ironique. Et puis, s'il y avait règle dans le nom, c'était encore mieux, mais c'était pas la pensée principale, on va dire, derrière le titre. Mais d'ailleurs, tout le monde ne comprend pas la blague hein, de la règle 30. Je sais pas si c'est un si bon titre que ça.
Ah bon?
Mais. Ouais, je crois que t'es le premier à comprendre direct le truc. Généralement, je dois expliquer.
Non, écoute, en tout cas, la newsletter est absolument excellente, évidemment. Donc, vous pouvez aller vous y abonner sur Numérama, Règle 30. Et je suis hyper heureux de t'avoir. D'autant plus qu'on a des sujets que tu maîtrises un petit peu. Et le premier d'entre eux, c'est un sujet qui est évidemment compliqué, puisqu'on va parler, alors pas directement de droit à l'avortement, mais des conséquences tech de... Bah, vous savez quoi, on va y aller tout de suite, j'allais commencer à expliquer, mais on va se lancer... Non, c'est pas ça. On va se lancer dans les infos de la semaine. Les grosses infos, et la première donc... Ben, ce sujet dont on entend parler dans la vraie actu, pas l'actu tech, depuis évidemment des jours, qui est le renversement, l'annulation du jugement Roe v. Wade aux États-Unis, qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral et qui donc maintenant permet à chaque État de la fédération américaine de décider si les femmes ont ou non le droit à l'avortement, avec en plus énormément de conséquences annexes. Il a des conséquences tech importantes et en particulier dans le domaine de la vie privée et du droit à la vie privée, enfin de la protection des données privées. Puisque, je vais laisser la parole à Lucie parce que c'est un domaine qu'elle connaît sans doute mieux que moi, mais il y a un élément qu'il est important de noter parce que certains se demanderont peut-être. Alors, le droit à l'avortement et la collecte de données privées, quel est le rapport? Le truc, c'est que la plupart des États qui sont en train d'interdire l'avortement aux États-Unis ne s'arrêtent pas là, parce qu'on pourrait se dire bon, avortement à autoriser ou pas, ça n'a rien à voir avec les questions de données privées. Mais en fait, oui, parce qu'ils vont plus loin que simplement le fait d'interdire l'avortement. D'une part, ils ont criminalisé la chose de manière assez sévère, et en plus, ils pourront être amenés à enquêter pour déterminer si oui ou non une femme a fait ou eu un avortement, ce qui en plus est un peu flou parce qu'il y a des situations où on a des fausses couches qui peuvent être considérées comme des avortements, des médicaments qui soignent l'un, enfin qui sont prescrits pour l'un, qui peuvent être utilisés pour provoquer l'autre, et donc on va aller chercher les gens qui assistent ou aident à ce genre de procédure. Et c'est là que ça devient vraiment problématique, parce que avec les lois qui interdisent l'avortement, il y a aussi, dans certains États qui sont en cours d'implémentation, des lois qui criminalisent l'assistance à l'avortement. Et l'assistance à l'avortement, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à justement ces questions de procédure ou de traitement pour les fausses couches. Et donc, certains médecins sont déjà en train de dire « Oui, mais nous, on ne veut pas aider dans ce genre de cas ». Parce qu'on pourrait ensuite nous accuser d'avoir provoqué un avortement ou ce genre de choses. Et du coup, il y a, en plus de ça, donc toute cette suspicion autour de ces questions fait que, pour les enquêtes, pour déterminer si oui ou non il y a eu avortement, eh ben on peut aller chercher partout, y compris dans la tech et y compris dans certains types d'apps. Et du coup, ben là, je vais laisser la parole à Lucie, parce que, oh, franchement, il y a des éléments qui nous font penser, je ne sais plus dans quelle émission je plaisantais sur The Handmaid's Tale, mais bon, franchement, je ne pensais pas dire ça un jour, mais il y a des trucs où on n'en est pas loin, quoi. Oui. Je te laisse la parole, Lucie, les aspects tech de tout ça.
Écoute, on va parler tech. Je pense que juste avant de parler tech, faut quand même parler. Enfin, moi, je peux pas parler de ce sujet sans parler du fait que ça me provoque beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'effroi, non seulement pour les Américains et les Américaines, mais aussi pour nous en fait, hein, parce que je pense qu'on est dans un contexte de recul vraiment historique et terrible du droit des femmes et des personnes menstruées en général. Et même moi, depuis la France, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intrinsèquement lié à la tech. Alors, c'est peut-être pas forcément évident de prime abord, mais bon, déjà, faut savoir que les géants de la tech ont toujours été dans une démarche, je vais dire, de marketing très progressiste. Je veux dire, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais l'industrie du numérique est principalement aux États-Unis, en tout cas située en Californie, qui est un État qui est plutôt à gauche de l'échiquier politique américaine. Donc, ils dépendent beaucoup des valeurs de type le mariage pour tous et toutes, le droit à l'immigration, le féminisme, l'antiracisme. Donc, assez logiquement, on va dire, dès qu'on a su en fait que l'arrêt Roe versus Wade allait être abrogé, beaucoup d'entreprises de la tech ont sorti un communiqué presque un peu en mode automatique pour réagir à ces sujets. Mais cette fois-ci, on sent un certain embarras, j'ai l'impression, de la part de ces boîtes. Je parle de Meta, d'Alphabet, d'Apple, de Google, enfin toutes ces entreprises que vous connaissez. En fait, leur première réaction, ça n'a pas été tant de dire, sauf exception, ça n'a pas été de dire oui, en gros, l'avortement est un droit fondamental et ce qui se passe dans notre pays est terrible. Ça a été plutôt de dire ne vous inquiétez pas, nous, on finance depuis le début les voyages de nos employés qui ne peuvent pas avorter légalement là où elles habitent et on continuera à le faire malgré ce nouveau contexte légal. Donc c'était des communiqués qui étaient assez froids, presque un peu vagues. Je regardais tout à l'heure en préparant l'émission et il y a même des entreprises qui ne mentionnent même pas le mot IVG. On parle de événements reproductifs ou même de healthcare events. Donc quelque chose d'assez vague. Et pourquoi c'est très vague? Alors déjà, il faut savoir que l'avortement aux États-Unis est un sujet politique qui est extrêmement sensible, genre vraiment très 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 sensible, et ça l'est depuis des années. Et ensuite, en fait, ces entreprises, elles vont être impliquées, qu'elles le veuillent ou non, dans l'application de ces nouvelles lois. Alors, tout est encore très flou, hein, parce que l'abrogation de l'arrêt, ça date de vendredi. Là, actuellement, on est sur une douzaine d'États aux États-Unis qui, du coup, ont passé ce qu'on appelle des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui étaient déjà prêtes, en fait, dans l'attente de l'abrogation de cet arrêt. Donc là, je crois que c'est 13 ou 14 États aux États-Unis, on ne peut plus avorter où les restrictions sont extrêmement sévères. Donc il y a des conditions, voilà, très, 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 beaucoup plus sévères qu'avant. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce dont on se doute, c'est qu'en fait, l'une des preuves qui sera sans doute utilisée pour condamner ou pour engager des poursuites contre les femmes ou les personnes qui vont aller avorter ou qui vont aider des personnes qui vont avorter, bah, ça va être nos traces numériques.
C'est-à-dire et que justement, à propos des lois, juste avant de te laisser continuer, ouais. Il y a un élément qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que certains États sont en train de tester le contexte légal pour voir s'ils peuvent non seulement condamner les gens dans leur État où les lois sont votées, mais en plus dans d'autres États de la Fédération américaine, si jamais ces personnes-là vont aller ailleurs pour se faire avorter ou avoir des informations, et donc aller carrément non pas engager des procédures contre les personnes, les résidents de leur État, mais aussi des habitants d'autres États, un médecin, qui que ce soit, qui aiderait une personne à se faire avorter. Et du coup, évidemment, là, pour chercher des preuves, on va aller dans les traces numériques. Dis-moi si je me trompe, hein, mais on ne sait pas si ça tiendra légalement, le fait qu'un État aille faire des poursuites sur un résident d'un autre État, mais ça pose une question qui est sévère et tout le monde est en train de paniquer dans ces...
Ouais, légalement, beaucoup de questions se posent, c'est clair, et on a peu de réponses pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que l'arrêt Roe versus Wade, en fait, c'était un arrêt qui portait sur le droit à la vie privée des Américains et des Américaines. Donc en fait, à partir du moment où il est abrogé, donc déjà les protections autour de l'avortement ont sauté, mais potentiellement, d'autres types de protections pourraient être amenées à sauter. On parle déjà de risques qui porteraient sur le droit à la contraception, même le droit au mariage pour tous et toutes, enfin, ça pourrait potentiellement aller très loin, quoi. Et le truc, c'est qu'on est dans un...
C'est même plus que des suppositions, hein. On a des avis de certains juges de la Cour suprême qui disent, oui, maintenant on va s'attaquer. Enfin, il faut qu'on discute de tel et tel et tel arrêt qui encadre justement des choses comme le mariage homosexuel ou le mariage pour tous et toutes, etc., etc. Donc, c'est pas juste, est-ce que ça va arriver ? Ça en prend le chemin, ça en prend la voie, clairement.
Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est déjà arrivé. Enfin, j'essaie d'être précise sur ces sujets parce que c'est déjà suffisamment anxiogène. Donc les infos arrivent un peu au goutte à goutte. Mais bon, donc toujours est-il qu'on a eu ces GAFA qui se sont exprimés. Et en fait, assez rapidement, il y a eu énormément de critiques en fait sur ces réactions qui déjà étaient assez molles. Et aussi parce qu'elles ont été jugées par beaucoup de personnes, et moi y compris d'ailleurs, hein, comme étant très hypocrites. Il faut savoir que l'industrie de la tech protège ses employés et tant mieux pour eux et elles, mais quand on parle des employés, par exemple, on ne parle pas des sous-traitants. J'ai le cas d'Amazon en tête qui a annoncé en grande pompe que ses employés auraient le droit à un remboursement de leurs actes médicaux dans le cadre d'un IVG, mais n'a pas parlé par exemple des livreurs, des livreuses, des personnes qui travaillent dans les entrepôts, qui pourtant sont des personnes a priori moins riches qu'une ingénieure de la Silicon Valley et qui pourraient avoir besoin de cette aide. Et puis ensuite, il faut savoir que les entreprises de la Silicon Valley, elles financent beaucoup de lobbies, de tous bords politiques, hein, mais ça fait partie du jeu d'être une grosse entreprise aux États-Unis. Et il a été démontré que des entreprises comme Meta, comme Alphabet, comme toutes ces entreprises-là, en fait, ont fait des donations financières à des lobbies qui ont été directement impliqués dans l'abrogation de cet arrêt. Donc déjà, c'est bien gentil de faire des communiqués de presse en disant qu'on est vraiment désolé que le droit à l'avortement ne soit plus assuré, mais si par ailleurs on va financer les forces politiques qui sont à l'œuvre derrière cette abrogation, il y a une certaine hypocrisie. Et puis enfin, on en arrive à ce que tu parlais, Patrick, qui était cette surveillance numérique. Il faut savoir, et ça c'est pas nouveau, hein, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais on est évidemment dans un univers du web, alors pas que les grandes plateformes, mais toutes les entreprises du numérique, où le modèle économique principal est la publicité, et donc la richesse des entreprises sont l'exploitation de nos données. Bon, ça, on le sait, hein, c'est pas nouveau. Mais cette surveillance numérique, elle peut se faire pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de surveillance policière. Donc, vous le savez bien, hein, mais les GAFA doivent respecter les lois dans lesquelles elles sont implantées. Et en gros, les gouvernements peuvent leur imposer de céder leurs données à des forces de police dans le cadre d'enquêtes pour des faits illégaux. Mais ça vaut pour le trafic de drogue, le terrorisme, toutes ces choses-là. Et puis, potentiellement, aux États-Unis, maintenant, ça va valoir aussi pour le droit à l'avortement. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas de la science-fiction. Il y a déjà eu des cas qui ont été... Il y a une chercheuse aux États-Unis qui s'appelle Isabelle Cook-Canty, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus sur la surveillance numérique de l'avortement. Et il y a déjà des cas aux États-Unis d'IVG qui ont été réalisés au-delà du cadre légal, donc par exemple au-delà du certain nombre de semaines dans lesquelles on pouvait avorter, où des femmes ont été condamnées parce qu'elles ont fait une recherche sur Google où elles ont écrit « comment avorter après tant de semaines ?» ou alors elles ont envoyé des textos, ou alors elles ont envoyé des mails, ou alors elles ont fait une publication sur les réseaux sociaux. Donc toutes ces traces, elles ont déjà été utilisées dans le cadre de procédures pour des avortements illégaux, et il est quasiment sûr et certain que malheureusement, cette surveillance, elle va s'accroître dans ce nouveau contexte de quasi-interdiction de l'IVG sur tout le territoire américain, quoi. Et là-dessus, j'ai vu que dans ta revue de presse, Patrick, tu avais mis un article, c'est Vice, qui allait demander à, je crois, une dizaine d'entreprises tech ce qu'elles comptaient faire si on leur demandait de céder justement des données concernant des potentiels avortements illégaux. Aucune d'entre elles n'a répondu. Parce que de fait, comme dans tous les cas, elles doivent respecter la loi. Et donc, si la loi dit que l'IVG est interdit, elles céderont ces données, quoi, a priori.
C'est ça qui complique vraiment les choses, évidemment, parce que les entreprises sont soumises à la loi, comme partout. Et on est dans un contexte dont on parle depuis longtemps, qui est « ok, maintenant tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe si le gouvernement change, si la loi change, si, etc. » Et on est pile dans ce contexte-là, où ces données sont collectées sans... Bon, évidemment qu'il y a des soucis, mais je veux dire sans conséquences directes, dramatiques pour les utilisateurs. Mais si la loi change, les entreprises en question sont obligées d'accéder aux demandes de l'appareil judiciaire, par exemple. Et il y a un cadre dans lequel c'est encore plus important pour cette question spécifique, c'est la question des apps de suivi de cycle menstruel. Il y a eu une sorte de vague, sur Twitter notamment, mais pas que, dans la presse tech, sur... la question du suivi, parce qu'évidemment, si on a les données de cycle menstruel d'une femme, on va très vite voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et du coup, les apps de suivi, qui sont nombreuses, ont tout à coup été prises d'assaut par les questions. Est-ce que vos données sont chiffrées ou pas ? Quelles sont vos politiques en termes d'accès par les forces de l'ordre ? Toutes ces questions-là. Parce que pour le coup, il n'y a même plus besoin de suivre une enquête, de regarder quel terme la personne a cherché sur Google ou je ne sais quoi. On a les données de cycle et puis c'est terminé. On a tout de suite toutes les infos, quoi.
Ouais, moi, je vais être plus mesurée sur ce sujet parce qu'effectivement, j'ai suivi toute cette vague d'articles sur les applications de suivi des règles. Et alors, déjà, c'est normal qu'on s'en inquiète parce que ce que moi, j'appelle la menstrutech, c'est un domaine de la tech qui est très utilisé par plein de personnes. Hein, moi-même, je suis utilisatrice de ce genre d'application. Après, quand on écoute les expertes en cybersécurité, je pense notamment à Eva Galperin, qui est la directrice de la cybersécurité de l'EFF, qui est une grosse organisation américaine de défense des libertés en ligne. Elle disait bien que oui, c'est inquiétant, mais en fait, ce qui est plus inquiétant, c'est plutôt le reste. C'est, encore une fois, Google, les SMS, les mails, toutes ces choses-là. Les applications de suivi des règles, jusqu'ici, n'ont jamais été impliquées dans des poursuites concernant des IVG illégaux, parce qu'encore une fois, il y a déjà eu des poursuites aux États-Unis à ce sujet. Alors, pourquoi déjà, il y a pas mal d'avocats et d'avocates qui estiment que ce genre de preuve, donc c'est-à-dire apporter une application de règles et dire, elle a eu son cycle, s'est arrêté là, et pendant un mois, elle n'a pas eu ses règles, donc potentiellement, peut-être qu'elle a avorté ou qu'elle était enceinte, et après, elle a re-eu ses règles, donc elle n'était plus enceinte. En fait, c'est beaucoup trop fou. Et qu'il y a des règles légales aux États-Unis qui disent qu'une preuve doit être recevable, notamment pour justifier le fait de pouvoir l'examiner, et qu'il y a beaucoup de débats légaux sur le fait que potentiellement, vu que ces applications fonctionnent uniquement sur le déclaratif, je veux dire, moi, quand j'utilise une app de Menstrutech, j'ai pas un objet connecté dans l'utérus qui dit quand j'ai mes règles. C'est moi qui toute seule qui produit cette donnée, si tu veux. Potentiellement, en fait, ça suffirait pas en fait à condamner une femme. Par contre, j'insiste, ce qui suffirait à condamner une femme, c'est une recherche Google, c'est un SMS, c'est des trucs beaucoup plus bénins et dont on se méfie beaucoup moins en fait. Donc, je cherche pas à absoudre de leur péché les applications de Monstrutech. Hein, c'est comme toutes les applications de santé connectée, malheureusement, sont des applications qui voilà ont des la plupart du temps héberger leurs données dans le cloud, qui vont avoir des politiques de protection des données qui va pas être claire du tout. Certaines cèdent une partie de leurs données à des annonceurs, etc. Donc c'est un vrai sujet, mais pour moi c'est pas le sujet le plus important.
D'accord.
Je vois juste que je finis sur le sujet de la Monstrutech parce que bah, tu le sais, hein, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu sur le chat Twitch une personne qui demandait s'il y avait des applications qui étaient plus sûres que d'autres. Moi je recommande généralement une application qui s'appelle Drip, qui est une application qui est open source, qui est allemande, ça s'appelle DRIP, et ça fait partie d'une nouvelle vague d'applications de Monstrutech qui ont une approche open source et qui surtout qui permettent de stocker les données directement dans le smartphone et non pas dans des serveurs. Et ça, même si en Europe, voilà, on a les RGPD, on a quand même des protections assez importantes en termes de données personnelles, c'est quand même une protection supplémentaire.
D'accord. Donc, effectivement, pour toi, le vrai danger, c'est la question de la surveillance par les outils numériques qu'on utilise tous, encore plus que des applications ou des utilisations plus spécifiques sur ces sujets.
Bien sûr. Bah, c'est encore une fois Eva Gaparin qui avait tweeté une phrase que j'avais trouvée très forte. Elle disait « La différence entre aujourd'hui et la dernière fois que l'avortement était illégal aux États-Unis, c'est que nous vivons désormais dans une ère de surveillance digitale ». Et c'est ça en fait, c'est ça le nœud du problème et ça touche l'avortement, mais ça pourra potentiellement toucher plein d'autres sujets dans notre ouais. vie. Alors aux États-Unis, hein, on est dans un contexte américain, mais il faut quand même se méfier néanmoins. Potentiellement, c'est que le début des emmerdes si tu veux quoi. Donc ouais. moi, c'est un sujet qui vraiment m'inquiète beaucoup. Ouais.
Tout le monde. Ce qui est terrifiant en fait, c'est le déclenchement a l'air de s'être fait très soudainement. En réalité, les groupes de chrétiens fondamentalistes aux États-Unis, ils y travaillent depuis des décennies. Et évidemment, on le sait, c'est parce que c'est devenu possible parce que la Cour suprême est très à droite maintenant, suite au mandat de Donald Trump. C'est effrayant la vitesse à laquelle ça s'est manifesté, je dirais.
D'accord, ouais.
Mais
c'est pas soudain, ouais. C'est pas ouais. soudain et il faut jamais sous-estimer la haine des femmes en général. Et dans un contexte américain comme dans un contexte français, hein, je veux dire, moi j'ai lu la presse française pour voir un peu ce qui s'en disait. J'ai lu un papier en une du Figaro qui moi m'a beaucoup choqué et qui parlait justement d'un droit sacré à la vie concernant les fœtus, etc. Enfin, c'est des discours qu'on retrouve, enfin qui n'ont jamais disparu en fait. C'est juste que on s'en rappelle un petit peu, mais il y a un mouvement de la droite évangéliste américaine qui a clairement gagné une partie quoi.
On est un petit peu désemparés hein, face à cet événement et je pense que beaucoup de gens. Bon, je vais conclure parce qu'on va pas faire toute l'émission, mais je suis évidemment assez catastrophé, mais ce que ça me dit, c'est que il n'y a pas. J'avais lu un fil Twitter très intéressant. D'une personne qui disait la différence, bon, d'une part, c'est qu'ils sont convaincus, et ensuite qu'ils votent. Et qu'ils votent pas juste aux élections présidentielles, ils votent partout. Ils votent aux élections de délégués, de parents d'élèves à l'école, ils votent partout, tout le temps. Et petit à petit, sur des décennies, bah, ça construit des réseaux, des personnes qui se connaissent, des personnes qui influencent. Et du coup, vraiment, alors je sais que ça peut paraître dérisoire, mais ça, pour moi, ce que ça rappelle, c'est à quel point la stabilité de nos... Peut-être qu'on va dire que je fais dans le dramatique, mais je pense sincèrement pas. La stabilité de nos démocraties est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Et on a perdu cette sensation avec les 70 ans de stabilité qu'on a connus. Et il y a vraiment une fragilité importante. Et du coup, il ne faut pas se relâcher, quoi. Et c'est vrai que là... force qu'on a en démocratie, c'est qu'on peut choisir, on peut décider. Alors, aux États-Unis, il y a énormément de choses avec le gerrymandering et la manière dont ils suppressent le vote suppression, etc. Enfin, bref, mais ce que ça m'évoque, moi, c'est que tous ces droits et toutes ces avancées sont fragiles Et il ne faut pas se leurrer en se disant non, mais c'est bon, ça n'arrivera jamais, quoi. Et enfin, c'est un exemple. Alors, c'est peut-être un contexte particulier, encore une fois, parce qu'il y a la question de la Cour suprême et que la Cour suprême statue sur des questions qui ne sont pas claires au niveau fédéral. Donc, techniquement, le gouvernement américain, le Parlement, pourrait codifier la chose, mais il faut une majorité qu'ils n'ont pas. Enfin bref, c'est tout un...
Et les Américains ne votent pas pour la Cour suprême, hein, il faut vraiment le souligner.
Non, bien sûr.
On a un système politique américain qui est quand même très sclérosé. Il faut le souligner, la majorité des Américains et des Américaines soutiennent le droit à l'avortement. Hein. Dire ça, on le voit régulièrement dans plein de sondages. Je crois que les derniers chiffres, c'était 65%.
Les particularités.
C'est moins mon domaine, mais c'est vrai que la question de oui, il faut voter, même quand on vote, on se retrouve avec ces situations, quoi.
C'est particulier parce que vraiment, on a. Je suis désolé. Hein, là, pour le coup, on fait un écart par rapport à la tech, mais c'est vraiment un sujet important. Aux États-Unis, l'une des grandes questions, c'est le poids de chaque État dans les décisions au niveau fédéral. Et il y a un poids qui est disproportionné par rapport à la population, qui a été établi il y a bien longtemps, pour s'assurer que chaque État ait son mot à dire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les populations sont essentiellement dans certains États, qui sont plutôt à gauche, et du coup, la population de gauche, de gauche pour les États-Unis, hein, on ne parle pas de la gauche européenne, mais a moins de poids qu'une personne dans ces États a du coup moins de poids politique qu'une personne dans les États moins peuplés. Et en plus de ça, il y a donc ces nominations à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est, je ne dis pas de bêtises, 9 personnes. 9 personnes qui sont nommées par le Parlement et le Président, enfin le Parlement qui les nomme. Et il se trouve que pendant le mandat de Donald Trump, c'est quoi, 2 ou 3 personnes qui sont décédées, qui sont mortes, des juges de la Cour suprême, puisqu'ils sont nommés à vie, et qui du coup ont été remplacés par des juges très à droite. Donc c'est quand même le gouvernement, c'est un système politique particulier. Pour être 100% honnête, et pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, quand les choses étaient plus équilibrées ou quand les choses allaient du côté de la gauche américaine, personne ne se plaignait de ce système. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des soucis qui amènent à ce genre d'aberration qui font que, même si une majorité de la population est contre une décision, il y a quasiment rien à faire. Et en plus, il y a tout le contexte du Parti républicain américain qui a été complètement... transformé ces 20 dernières années et qui est devenu une sorte de bras armé de la droite fondamentaliste, de tous bords. Hein, c'est les nationalistes, les suprémacistes, les fondamentalistes chrétiens, et qui du coup se disent tous « Ok, on est tous d'accord, nous, il y a un truc qu'on veut, et on va tous voter ensemble. » C'est une sorte d'union sacrée de la droite au lieu de la gauche, et ça amène ces résultats. Bon, après, on pourrait parler de déficience du système politique américain pendant longtemps, mais le résultat, je pense, parle de...
Oui, là, on s'éloigne de notre spécialité à toi comme à moi, ouais.
Bref, bon, voilà pour ces questions-là. Si vous vouliez un exemple de la manière dont les données privées peuvent être utilisées de manière inquiétante demain, en l'occurrence aujourd'hui, vous l'avez. Et du coup, ça m'amène à un sujet sur lequel on va passer beaucoup plus rapidement, qui est... le projet de Microsoft d'éliminer les possibilités, d'arrêter la possibilité d'utiliser ces outils de reconnaissance faciale pour des choses qui peuvent être biaisées. On parle de choses comme l'âge, la race, on dirait race aux États-Unis, hein, mais donc l'ethnie, ce genre de choses, parce que éthiquement, ils se sentent pas à l'aise avec l'idée que ces outils, et on en parle depuis longtemps, hein, de la question de l'utilisation éthique des outils de reconnaissance faciale, et donc Microsoft a décidé, du coup, on va arrêter la possibilité d'utiliser ces outils pour ça. C'est des choses, comme je le disais, donc le genre, l'âge, ou l'état émotionnel même, ce genre de choses. Là où ça m'interpelle, c'est qu'il y a une technique bien connue en sécurité informatique qui est le trustless. Alors, on parle beaucoup plus de mots de passe et de sécurité en général, mais c'est-à-dire qu'on conçoit des systèmes où on n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un ou de faire confiance à un État ou un organisme pour s'assurer qu'il soit mal utilisé ou qu'il soit sécurisé. Et ça m'apparaît être une sorte d'implémentation du trustless dans les questions éthiques qui est peut-être importante à considérer pour d'autres domaines aussi, quoi. L'autre gros sujet qu'on voulait évoquer, c'est Amazon. Alors, il y a plusieurs éléments et on va finir avec celui qui est le plus... Moi j'aurais dit le plus cringe, le plus what the fuckifiant, mais peut-être que Lucie me donnera une autre perspective sur la chose. Commençons avec cette étude interne. Tu as vu cette étude sur les employés, le pool d'employés potentiels pour Amazon aux États-Unis ?
Non, tu me l'as appris, j'ai vu ça dans ta revue de presse, ouais.
Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2021 par Amazon en interne qui estime que d'ici 2024, et même plus tôt dans certains États, Amazon aura employé tous les employés potentiels aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont dans leurs entrepôts tous les employés possibles des États-Unis, mais qu'ils sont soit en employés en ce moment, soit par le passé, des gens qui sont passés par les entrepôts Amazon et qui en sont sortis, qui ont arrêté de bosser. Il y a un gros turnover, hein, c'est moins d'un an pour les employés. Et leur gros problème, c'est que d'ici 2024, ils auront utilisé tout le monde. Et donc, ils ne savent pas quoi faire pour avoir de nouveaux employés, parce que ceux qui sont passés par là sont sont possiblement moins prompts à y revenir. Je trouve ça complètement fou, la quantité, la taille du truc, c'est assez incroyable. Un autre sujet, c'est les nouveaux robots. Alors, est-ce que c'est lié au sujet précédent ? Si vous voulez lire les articles, ils seront dans la newsletter que je sors le vendredi. Une fois que vous êtes abonné à Règle 30, vous pouvez aller voir sur notrepatrick.com pour vous abonner à la mienne en deuxième. Mais l'un des robots, par exemple, c'est, vous savez, ces robots qui portent les grosses armoires de colis. Eh bien, jusqu'à maintenant, ces petits robots qui ressemblent à des énormes Roomba, ils étaient cantonnés à des zones fermées. Ils ne pouvaient pas interagir avec les personnes qui travaillaient dans les entrepôts. Maintenant, ils en ont qui ont une reconnaissance visuelle suffisamment forte pour pouvoir être dans les mêmes espaces. En plus, ils ont un système assez malin, une sorte de faisceau lumineux de 3-4 mètres qui montre dans quelle direction se déplace le robot pour que les gens puissent voir le faisceau sur le sol. Ils ont aussi des robots qui permettent d'attraper, enfin des bras robotisés qui attrapent les colis même quand ils sont dans des piles. Et puis, il y a un système qui scanne les paquets tellement vite qu'en fait, on les transporte d'un endroit, d'une armoire à une autre, en gros, et le système voit tout seul, sans qu'on ait à passer devant le scan. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moins d'employés ? Évidemment, Amazon dit non, c'est pour complémenter, faciliter le travail de nos employés. À voir comment ça évolue, vu qu'ils risquent de ne plus trouver d'employés. Je me dis que ça risque de donner des solutions à ce problème-là. Et puis la dernière chose sur Amazon, c'est là qu'on va revenir vers Lucie, c'est cette histoire d'Alexa qui peut imiter la voix des personnes, de n'importe qui en fait, avec une minute de voix, ça lui suffit pour ensuite reproduire la voix de la personne en question. Et l'exemple qu'il donne, moi, me paraît hyper cringe, c'est l'exemple de une personne décédée. Par exemple, si mamie n'est plus avec nous, vous faites écouter à Alexa une minute de voix de mamie, et ensuite, les petits-enfants pourront dire « Ah, Alexa, tu peux demander à mamie de me lire une histoire ?» Moi, je trouve ça complètement malsain. Mais tu me disais, Lucie, que en fait, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça.
Alors, ouais, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que il y a 2 ans, j'ai fait une série documentaire qui s'appelle Mort à la ligne, que vous pouvez retrouver chez Binge Audio. C'est une série en podcast. Et qui portait justement sur comment les nouvelles technologies pouvaient transformer notre rapport à la mort et notre rapport au deuil. Et du coup, le dernier épisode de cette série parle justement d'un peu le je crois que je l'avais appelé Va-t-on disrupter la mort, et parlait un peu de l'avenir, de comment est-ce qu'on va mourir en fait dans le futur, et comment est-ce que On va faire notre deuil dans le futur. Et moi, cette actu sur Amazon, ça m'a complètement rappelé ce travail que j'avais fait. Alors déjà, d'un, parce que faut savoir qu'Amazon n'est pas du tout la première entreprise à tenter de faire ce genre de choses. Il y a déjà pas mal d'exemples, notamment, alors c'était plutôt des bots, jusqu'ici, donc des bots textuels, qui étaient entraînés soit sur la base de SMS, de messages, soit entraînés carrément par des personnes en phase terminale, pour qu'ensuite leurs proches puissent discuter avec eux dans le cadre de cancer. Donc ça existe déjà depuis des années. Je pense aussi à un exemple un peu plus récent. Je sais pas si tu vois qui c'était Anthony Bourdin.
C'est pas un cuisinier ou un truc comme ça?
Ouais, c'était un cuisinier et un animateur télé en fait qui était très connu aux États-Unis et donc qui s'est malheureusement suicidé en 2018. Et il y a eu un documentaire sur sa vie qui est sorti l'année dernière et à un moment il raconte en fait il on entend sa voix qui lit un email qu'il a envoyé à un ami. Et en fait, les gens se sont rendus compte après coup que ce n'était pas sa vraie voix. C'était en fait un deepfake audio qui avait été utilisé en fait, par le producteur du documentaire qui a utilisé en fait, tous les... Ben, vu que c'était un animateur TV, il y avait beaucoup d'exemples en fait, de sa voix pour produire en fait, cet extrait et retrouver sa voix. Et donc du coup, ça a soulevé des sujets éthiques alors qu'ils sont clairs et nets. Hein, je veux dire, ça pose des questions assez vertigineuses. Est-ce que à l'avenir, dans notre testament, on devrait écrire « j'autorise ou pas l'exploitation de ma voix et de mon image après ma mort ». Enfin, on rigole, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir être amené à faire. Enfin, c'est un sujet qui est compliqué à... Ça...
Oui. Mais j'imagine que c'est des questions, en fait, pour des personnes dont des personnes publiques, des acteurs, des mannequins qui monnayent déjà leur image. J'imagine que c'est une chose qui est déjà discutée.
Alors, pour des personnes publiques, oui, pour les acteurs notamment. Ouais. Pour les acteurs, il y a eu pas mal d'exemples de. Notamment, il y avait Carrie Fisher, dont l'image avait été utilisée en deepfake lors d'un Star Wars où elle était décédée. Enfin, bref, donc ça se voit déjà dans la sphère publique, mais moi, je pense aussi que c'est des choses qui vont arriver dans la sphère privée. Et donc, c'est des questions qu'on doit se poser. De la même manière que je sais que personne n'aime imaginer sa propre mort, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qui va advenir de vos données en ligne une fois que vous serez décédé. Est-ce que vous avez pris vos dispositions pour votre compte Facebook, votre compte Twitch, votre compte Discord, etc. Donc, voilà, déjà, il y a cette question. Et ensuite, moi, ce que j'avais envie de dire sur le sujet, c'est qu'en fait, d'un côté, il y a ces questions éthiques qui sont importantes. De l'autre, moi, j'aurais tendance à vraiment pas juger les personnes qui auraient envie d'utiliser ce genre de service pour parler avec avec leurs proches décédés. Moi, quand j'ai fait mon documentaire, alors déjà, je le dis parce que je le dis dans le documentaire, moi, je suis une personne directement concernée. Hein, j'ai perdu ma mère quand j'avais 25 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce documentaire. Et j'ai fait du coup un groupe de parole pour ce docu avec plein de personnes concernées. Et on avait parlé de ça, de parler avec les morts. Et en fait, on n'a pas besoin d'IA pour vouloir parler avec les morts. Moi, j'ai eu des exemples qui m'ont vachement frappée, par exemple, d'une personne, elle s'appelait Julia, qui me racontait comment elle a continué pendant des mois à écrire des SMS à son père décédé sur le même numéro, quand bien même son père était décédé, du coup, ne répondait plus. Et d'ailleurs, elle a appris des mois plus tard qu'en fait, le numéro avait été réattribué, mais la personne qui possédait le smartphone l'avait laissé faire, parce qu'il avait compris en fait qu'elle avait besoin de cet échange. Pareil, moi j'ai
ça fait un scénario de film, ça, rien que cette petite.
Ouais, cet exemple, moi, il m'avait vraiment beaucoup ému. Pareil, j'avais un monsieur qui était plutôt qui était plus âgé et qui avait des enfants, qui s'était posé la question de, il avait un compte Twitter et s'est dit ouais, à un moment pour rigoler, j'avais envie de programmer des tweets qui seraient publiés dans 20-30 ans. Et en fait, j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit, dans 20-30 ans, il y a des chances que je sois peut-être mort. Qu'est-ce que mes enfants vont comment mes enfants vont réagir s'ils voient des messages de leur père mort d'un coup, enfin bon. Et donc c'est des questions qui sont un peu vertigineuses.
Sur ce point spécifique, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup de questions, de personnes qui réagissent à des choses comme les rappels automatiques de fête des mères ou de fête des pères, ce genre de choses pour des personnes qui ont perdu. Bah, j'imagine que tu es concerné, qui sont chez qui ça ravive des.
Complètement. Et en fait, les morts nous parlent. On n'a pas le choix. Moi, j'ai eu des rappels sur Facebook pendant des mois qui me disaient, c'est l'anniversaire de ta mère. Ah, voici oui, les derniers contacts avec ta mère, etc. Parce que tous les réseaux sociaux sont bâtis sur les interactions. À partir du moment où il n'y a plus d'interactions, les réseaux veulent forcer les interactions. Bref. Et donc, pour finir là-dessus, Julia, donc la jeune femme qui m'avait raconté parler avec son père par SMS, m'avait dit une phrase qui m'avait marquée. Elle m'avait dit, mais en fait, faire un deuil, c'est sauter dans le vide. Et parfois, on a besoin de reculer. Et pour elle, le fait de vouloir parler avec un bot ou un truc comme ça, elle savait pas si elle aurait eu envie de le faire, si l'opportunité lui était présentée, mais elle comprenait. Elle disait, moi, à un moment, j'ai eu envie de reculer, donc j'ai parlé à mon père par SMS. Et bah, potentiellement, les gens qui voudraient utiliser ce genre de service, peut-être qu'ils auront envie de reculer, quoi. Alors, ça n'absout pas Amazon des enjeux éthiques, hein, vraiment. Mais voilà, je pense que personne ne peut deviner, avant d'être concerné par le sujet, ce qu'on aurait envie de faire face à ce genre de choses, quoi.
Écoute, merci beaucoup de me donner un petit peu de perspective.
Je mets l'ambiance hein, aujourd'hui, je suis désolée.
Écoute, les sujets sont ceux-là. Mais non, sur celui-ci en particulier, c'est précieux d'avoir ce genre de perspective. Parce que moi, ma réaction, il se trouve que j'ai perdu mon père il y a quelques années, donc je suis pas... Enfin, tout le monde... tout le monde, ça arrivera à tout le monde. Mais ma première réaction à ça, c'était... enfin, c'est quand même hyper glauque, c'est hyper bizarre. Qu'est-ce que, pourquoi, comment ? Finalement, oui, pourquoi pas, à partir du moment où on comprend ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est utilisé. Oui, bon, j'y avais pas assez réfléchi, donc merci.
Non, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et puis ça pose des questions de manipulation, de bon, encore une fois, je nie pas ça, mais bon. C'est non, après, toujours d'avoir un peu d'empathie, quoi.
Il y a aussi l'aspect purement tech de, il suffit d'une minute, alors il faut voir à quel point c'est fidèle, hein, mais il suffit d'une minute de voix pour reproduire la voix de quelqu'un. Après, est-ce qu'on va avoir, je suis sûr que c'est déjà le cas, des outils qui vont reproduire la voix de quelqu'un, à qui on va pouvoir faire dire certaines choses qu'on va utiliser pour, je sais rien moi, des arnaques, du harcèlement, tout ce genre de choses. Ça pose toutes ces questions aussi, mais là clairement c'est uniquement cette question d'Alexa qui peut du coup être... Tu vois, moi quand ils ont dit « lis une histoire avec la voix de grand-mère », je me suis dit « mais c'est bizarre », et en fait, peut-être pas, t'as raison. Bon bah écoutez, on va parler
t'as
d'un truc...
T'as une blague
que... Pardon
T'as une blague à faire, quelque chose, non ?
Non, par contre j'ai un truc super joyeux dont je peux vous parler, c'est Patreon. Wouhou ! Bravo, attendez, je vais vous faire un petit effet sonore absolument incroyable. L'effet sonore qui fait... Bravo, Patreon ! Non, bon, je vais parler de Patreon, mais juste dans une seconde supplémentaire pour dire, c'est des sujets... Et on en parle, j'en parle de temps en temps. Moi, quand j'ai commencé le rendez-vous tech, c'était pour parler du dernier iPhone, des apps du moment, ce genre de choses. Et ces sujets-là, c'est des sujets qui sont hyper importants, dont on parle peut-être ici ou là, mais qu'on a rarement le temps d'explorer comme on le fait dans cette émission, et un petit peu plus longuement. Et du coup, je pense que même si ce n'est pas forcément les sujets les plus sexy, il est important de... C'est, comme je le dis parfois... C'est les légumes des news tech, et on ne peut pas manger que des frites, quoi. De temps en temps, il faut aussi comprendre les enjeux et comprendre, aller un petit peu plus loin sur ces sujets. Donc, c'est aussi ce qu'on fait. Et du coup, Patreon, patreon.com/rdvtech, si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez envoyer... Et on a des news un petit peu plus intéressantes, plus légères, on va dire, dans un instant. Mais si vous voulez soutenir l'émission, et ben c'est très simple, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Il y a Guy Book qui a laissé un message sur iTunes, enfin une review sur iTunes, avec ses 5 étoiles. Il a donné plein de compliments, merci beaucoup à lui, et il dit... Attention toutefois, et c'est effet secondaire, j'ai une irrépressible envie d'offrir un café à la personne la plus proche de moi à chaque fois que j'entends un bruit de clé. C'est étrange. Merci Guy Book. Et effectivement, si vous ne le faites pas tout de suite, cette histoire de Patreon, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, eh ben, ça fait cling, et là vous dites « Patrick, ah, mais je voulais payer un café à Patrick !» Eh ben, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Quand vous arrivez chez vous et quand vous entendez les clés dans le bol, et là, vous pouvez choisir, je vais payer un café, un Mars, un sandwich, une bière à Patrick sur ce merveilleux site qui est Patreon et qui me permet de continuer à vous proposer cette émission. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui sont sur Patreon. Je vous aime d'amour.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, un petit peu plus léger avec cette petite transition. Vous voyez, là, on est au bord de la plage, tout va bien, tout est tranquille. Et je vais vous parler de Twitter. Alors, Twitter, ils font un partenariat avec Shopify. C'est marrant parce qu'on parlait des opportunités de Twitter il n'y a pas si longtemps, avec toutes les histoires avec Musk, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ça suffit, Elon. Mais Shopify partenariat, ça veut dire que Shopify est connecté à Twitter et donc il est facile de vendre ses choses. Si on est sur Shopify, qui est un outil de e-commerce bien connu, et ben de vendre aussi sur Twitter. Entre parenthèses, on aura un épisode spécial sur le e-commerce pendant l'été, pendant les vacances. Donc vous saurez tout sur ces sujets-là. Mais encore plus intéressant, je trouve, toujours du côté de Twitter, c'est ce test qu'ils sont en train de faire sur les notes, Twitter notes. Alors c'est quoi les Twitter notes ? C'est des sortes d'articles de blog. En fait, il y a une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui permettrait d'écrire et de gérer des comme des blogs, en fait, directement sur Twitter. Donc, fini les tweetstorms, fini les threads, tout ça. Vous pouvez directement écrire ça sur Twitter. C'est intéressant parce que on parlait la semaine dernière du fait que Twitter était, selon Musk, un outil de transition qui envoyait les gens vers d'autres services qui font du contenu. Et là, il semble ajouter, en plus d'autres choses, la possibilité de faire des blogs. Tu utiliserais, toi, Twitter pour écrire des petits articles de blog ? C'est peut-être pas non plus le roman de la vie, mais qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité qu'ils sont en train de tester ?
Alors oui, peut-être que j'utiliserai. Après, je t'avoue que à chaque fois que j'entends Twitter investir dans une nouvelle fonctionnalité, je me dis que j'aimerais bien qu'ils mettent cet argent et cette énergie dans la modération au hasard. mais oui, on est clairement sur un retour du long forme sur Internet, à la fois dans la vidéo et dans l'écrit. Après, je t'avoue que moi, je trouve quand même que la force de Twitter, c'est l'instantané, hein, c'est le court. Donc voilà, je suis assez neutre sur le sujet, je crois. Voilà, c'est bien de ne pas avoir d'avis parfois et je crois que j'en ai pas vraiment.
Moi, ce que je me dis, c'est que, évidemment, Twitter a besoin de garder les gens sur le site, donc ça s'inscrit dans ce cadre-là. Comme beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées à Twitter, souvent, ça vient d'une manière qui est déjà, enfin, d'une utilisation qui est déjà présente sur le réseau. Et en l'occurrence, je parlais des threads et des, bon, on appelle ça les threads maintenant, plus les tweetstorms, mais enfin, un tweet sur deux, j'ai l'impression, c'est une série de 15 tweets qui expliquent un truc. Et c'est souvent intéressant. Donc, je me demande si ça peut pas, effectivement, si c'est intelligemment intégré, remplacer ces trucs qui existent déjà de toute façon. En même temps, comme tu le dis très bien, la force de Twitter, c'est les petits contenus très rapides. Donc, je ne sais pas si ça pourrait nuire à cet aspect du service, quoi. Google et la presse. Il y a un retour. Vous saviez que Google est parti d'Espagne. Google News, pardon, et a quitté l'Espagne il y a, ça fait quoi, quelques années ? Ça fait déjà 8 ans ? Mon Dieu, ça fait presque 8 ans. Il semble. Eh bien, suite aux nouvelles réglementations européennes, ils reviennent en Espagne avec un nouveau design, etc. Mais ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est que au-delà de la question du retour de Google News en Espagne, en fait, il semblerait que, selon une étude, c'est une étude qu'il est difficile de faire parce que avec ou sans Google News, bah Google News est partout. Et en l'occurrence, sans Google News, il semblerait que les niveaux de trafic n'aient pas tellement changé. Et ça, ça m'a beaucoup surpris parce que quand on parle de Google News, on dit que la force du service, c'est qu'il envoie énormément de trafic aux sites de presse. Et évidemment, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Mais il semblerait que si Google News disparaît, et bien en tout cas, l'expérience que ça a donnée en Espagne, c'est que bah, les sites n'ont pas vu leur trafic s'effondrer, quoi, parce que les gens vont quand même checker les sites de presse pour avoir leurs informations, j'imagine. Ça m'a surpris, cette partie de la conclusion de l'article, quoi. C'est, enfin bon, après Google News, le débat Google News et la France est interminable. Mais
je ne m'y tenterai pas.
Ouais, je crois que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et à propos de Google toujours, juste pour continuer avec les États-Unis, le Parti républicain aux États-Unis fait pression sur Google pour... Alors vous voyez que c'est, ça s'immisce partout. L'un des problèmes qu'ils ont au Parti républicain, spécifiquement, visiblement les démocrates ne sont pas aussi remontés, c'est que Google... dans ces outils de Gmail, flag les mails de campagne du Parti républicain comme spam beaucoup plus souvent que celui des démocrates. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils en envoient beaucoup ? Anecdotiquement, j'ai vu beaucoup de témoignages parlant du nombre de mails qu'on reçoit du Parti républicain quand on leur a donné une adresse email. Ça a l'air assez inquiétant. Mais bon... Du coup, Google est maintenant en train de demander aux autorités américaines de faire une exemption pour les emails de campagne politique pour permettre qu'ils ne soient pas classés comme spam suite aux plaintes du GOP, du Green Deal Party, le parti républicain. Ça s'immisce partout.
Et oui, ça fait partie. Ça fait partie de ce grand débat depuis des années, les républicains et plus généralement du clan conservateur américain qui accuse les grandes plateformes en ligne de les censurer. Je fais des guillemets avec mes mains devant ma webcam qui est éteinte, mais voilà, de censurer leurs propos sans jamais vraiment le prouver. D'ailleurs, la plupart, enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des études montrent qu'au contraire, les algos et même les systèmes de modération des grandes plateformes ont tendance à favoriser les contenus conservateurs par rapport aux ceux plus progressistes. Donc effectivement, je pense que sur la question des mails, je n'ai pas enquêté sur le sujet, mais on peut supposer qu'on est plus face à une affaire de spam qu'autre chose, mais c'est un argument politique qui a beaucoup de points aux États-Unis et les conservateurs ont vraiment... un peu gagné la bataille des idées sur ce sujet, ce qui est un peu terrible parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu de preuve, quoi.
Oui. Et même, comme tu disais, c'est plutôt le contraire. Est-ce que tu sais quel est le meilleur coup rachat dans la presse de 2021
qu'on voit en Wordle par le New York Times, j'imagine.
Bon, voilà, exactement. D'une année sur l'autre, le nombre de visites du New York Times pour le mois de mai a connu une croissance de 50%, 52% plus précisément. Et c'est évidemment suite à l'achat de Wordle qu'ils ont fait en 2021. Vous savez, ce petit jeu... Enfin oui, bien sûr, vous savez ce qu'est Wordle. 50% de croissance d'une année sur l'autre, c'est quand même fort. Avec, ils ont payé ça combien ? $1 million, je crois ? Un truc du genre. C'est bien joué du New York Times. Quelques sujets en vrac maintenant. D'abord, Apple. Apple, on va en parler peut-être dans l'after show pour ceux qui sont abonnés, justement, parce que Mark Gurman, le grand gourou des news et des rumeurs Apple de Bloomberg maintenant, estime que dans la prochaine année, les 18 prochains mois, il va y avoir la plus grande quantité de nouveaux produits Apple de l'histoire de la société. Alors, on parle de la prochaine année, pardon, les 12 prochains mois. Ce n'est pas que des nouveaux produits, en fait, c'est beaucoup de produits mis à jour, des produits existants, des iPads, des Macs, etc., qui sont mis à jour. Mais il y a des choses comme des plus grands iPads, déjà la puce M3 qui sera en préparation, qui arriverait bientôt, évidemment, la lunette connectée, non, le casque de réalité augmentée, réalité Mix qui arriverait. On en parlera du coup dans l'after show, dans le détail, mais c'est notable parce qu'ils font tellement de choses Apple et ils réussissent à gérer les lignes de production dans un contexte qui est compliqué. Alors je ne dis pas que des sociétés comme Samsung, etc. ne font pas beaucoup de choses aussi, hein, mais c'est une infrastructure, logistique qui est vraiment compliqué. Et puis au-delà de ça, pour Apple, on se demande souvent combien de parts de marché a Apple. Eh bien, une étude récente montre que sur le premier trimestre 2022, on parle spécifiquement du premier trimestre, Apple aurait fait des ventes sur le segment des téléphones premium, donc plus de $400. Apple aurait pris 62% du marché, donc de la vente, hein, de nouveaux appareils, au premier trimestre. Encore une fois, on parle des appareils au-delà de $400, donc c'est une certaine catégorie d'appareils, mais il n'empêche 62%, je pense, vu l'importance d'Android, je ne pensais pas que ça serait autant, j'avoue. Quand on regarde dans le détail, on a 23% l'iPhone 13, 13% l'iPhone 13 Pro Max, 9% l'iPhone 13 Pro, 8% l'iPhone 12, et le premier non-Apple, il est en cinquième position, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra, et il fait 3%. 3%. C'est assez incroyable. C'est une étude de Counterpoint, qui est un cabinet d'études.
Ouais, ce que je trouve incroyable, c'est le nom de tous ces smartphones, qui, pour un néophyte maintenant, est complètement incompréhensible. Samsung Galaxy S2 Ultra 5G, Apple iPhone 13 Pro Max...
ouais. Écoute, l'important c'est qu'il y ait iPhone dessus et c'est ça que les gens veulent. Et sur les prochains, ça va être encore plus compliqué parce qu'il y aura le 14, le 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max. Ça va être un peu dur.
J'ai lâché la critique produit. Enfin, je ne fais plus du tout de produit maintenant et j'ai complètement paumé.
Et tu t'en portes mieux.
Ouais, je m'en porte pas plus mal. Ouais.
Mais c'est intéressant quand même, 62% des téléphones au-delà de $400, ça veut dire que le reste, on sait que Android a quoi, 80% de parts de marché dans le monde, hein, au global, mais ça veut dire qu'ils ont, sur les téléphones qui rapportent de l'argent finalement, bah, pas grand-chose, moins de 40%, encore une fois, les ventes sur... le premier trimestre 2022. Donc, c'est... En même temps, ce n'est pas une période de sortie d'iPhone, hein, donc ce n'est pas la période super forte, mais ça, c'est la plus grosse part de marché d'Apple de son histoire, donc ça peut être un peu exceptionnel, mais il n'empêche, de ça, les Android se partagent peu, donc moins de la moitié sur les smartphones qui font de l'argent, donc là où ils sont vraiment plus importants, les téléphones Android, c'est sur le segment d'en dessous, les téléphones moyens et bas de gamme, et c'est là-dessus, on ne se fait pas de marge. Donc, c'est aussi intéressant de noter que bah, c'est Google qui se fait de l'argent, et Google qui se fait de l'argent avec quoi ? Vos données et la publicité, évidemment. Bon, quoi d'autre ? Est-ce que tu as vu le téléphone Nothing ? Le Nothing
téléphone
One
Nothing.
Non,
pas du tout.
Alors, c'est
comment il
s'appelle ?
Ça m'intéresse.
Et, écoute, tu vas être déçu. En fait, c'est juste un téléphone dont une marque qui s'appelle Nothing, dont le fondateur, c'est Carl Pei, c'est ça ? Je crois. Il était chez Oppo OnePlus, l'une de ces marques premium.
C'est OnePlus,
Carl Pei. Carl Pei, ben voilà, c'est OnePlus. Et donc, il a fait une nouvelle société et il a présenté son Nothing Phone 1. Alors déjà, le nom Nothing, franchement. C'est le nom de la marque, hein. Et donc le téléphone, c'est Nothing Phone, entre parenthèses, 1. Il y a quand même de la comment ? Ça se turlupine sur le design, hein. Enfin sur les milieux de designers. C'est genre, moi, je vais appeler ma marque Nothing, parce que c'est la pureté de l'élégance et du design et de la fonction. Tu vois. Enfin bon, bref. Et le téléphone... Je ne sais pas pourquoi j'en parle, en fait, il n'y a rien. Enfin, j'ai l'impression qu'il a une sorte de bandeau lumineux derrière pour le différencier, mais bon, voilà. Et il ne sera pas vendu aux États-Unis.
Tu n'as pas l'air convaincu par ton propre sujet.
Mais en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que tous les autres en parlent et le fait que ça s'appelle Nothing. Je ne sais pas, mais il a réussi son coup, du coup, le couillon, parce que oui, tout le monde en parle du Nothing. Bon, c'est aussi qu'il vient de OnePlus, mais... Bref, bon, on s'en fout du Nothing Phone, quoi. on s'en fout. La Chine a édicté de nouvelles règles pour les streamers. Alors, c'est quoi ces nouvelles règles ? On pourrait se dire, bah, c'est très bien. Désormais, il faut avoir certaines qualifications pour discuter de sujets spécifiques comme les sujets de médecine, la finance, la loi, etc. On n'a pas le droit, si on n'est pas qualifié dans ces domaines, de discuter de ces sujets. Alors, ils ne précisent pas hein, comment on doit être qualifié. J'imagine que c'est un diplôme dans le domaine. Mais au-delà de ça, ils expliquent, c'est évidemment un moyen de contrôler la manière, ce que disent les streamers. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai en Chine. Mais je ne sais pas, ça m'a... On est vraiment dans du Big Brother qui est plus juste dans la surveillance, mais j'ai l'impression que c'était pas... c'est cette transition du monde non numérique au monde numérique qu'ils sont en train de terminer, où ils imposent le discours, ils régulent le discours également en ligne d'une manière qui était... Enfin, c'était pas autant le cas, bien sûr, c'était le cas, mais pas autant le cas. C'est sur les nouveaux outils, en fait. Et là, sur le streaming, bah, voilà, maintenant, on n'a plus le droit de parler de ce qu'on veut, finalement. C'est, je sais pas, parce que autant bah, les spécialistes de la médecine qui sont venus spécialistes en géopolitique avec la guerre en Ukraine, etc., c'est horripilant. Mais en même temps, j'aimerais bien que seuls les gens qui savent de quoi ils parlent puissent parler de ces choses-là. Mais en même temps, évidemment, c'est un contrôle de la liberté de parole qui est assez insupportable. Je sais pas, je suis un... Pour la Chine, évidemment, non. Mais sur le principe, je suis un peu tiraillé. On est d'accord, c'est une mauvaise idée, ça, Lucie.
Je vais botter en touche, je n'ai pas d'opinion non plus sur le sujet. Comme toi, mon premier réflexe a été de me dire, de penser aux antivax et aux... Et d'ailleurs, au-delà des antivax, hein, toutes les personnes qui donnent des conseils en médecine terribles, qui arnaquent en fait hein, des personnes malades. Après, mon second réflexe a été de me dire, oui, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je suis victime d'une violence policière, j'ai plus le droit d'en parler parce que je ne suis pas policier et donc pas qualifié pour parler de... Bref. Donc, je vais là aussi admettre que je n'en sais pas assez et que je n'ai pas d'opinion et botter en touche.
Je trouve ta démarche absolument admirable parce qu'on a tellement cette pulsion de dire ce qu'on pense d'un truc. Et moi, j'en suis la première victime. Et en particulier sur Twitter, je pense que c'est tout à fait juste de se dire que parfois, il faut pas parler si on n'a pas d'idées claires là-dessus et de raisonnement clair là-dessus. Ceci dit, le fait que le gouvernement dise qui peut parler de quoi... Bon, ça, je crois que si on devait aujourd'hui me demander qu'est-ce que tu choisis, oui, ça serait bien que les antivax puissent pas parler de trucs qu'ils connaissent pas. Mais en même temps, le gouvernement qui décide qui peut parler de quoi, c'est un peu trop, quoi. Là, tout à coup, on passe dans une autre catégorie de problématiques. Et puis, un petit peu de crypto. Hein, on va pas se passer ce plaisir. D'abord, il y a une étude du DARPA, qui est le département de la défense américaine, qui a étudié les vulnérabilités de centralisation des systèmes en blockchain. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ne trouvent pas de vulnérabilité technique. Techniquement, ils sont d'ailleurs assez admiratifs de l'ingénierie de ces systèmes. Par contre, ils ont trouvé beaucoup de problèmes à la marge, comme par exemple le fait que des nouveaux mineurs qui ont beaucoup de puissance dans le réseau peuvent potentiellement orienter les choses s'ils ont, on le sait, plus de 50%. Il y a plein de choses. Il y a d'ailleurs une analyse des DAO, vous savez, les Decentralized Autonomous Organizations, dont on avait beaucoup parlé, qui sur les 10 plus gros, eh bien, il se trouve que 1% des personnes qui participent à la DAO, qui ont des tokens pour participer au DAO, ont généralement plus de 90% des voix pour voter sur les décisions de la DAO. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte à quel point les systèmes qui sont censés être décentralisés et qu'on nous vend comme des systèmes hyper décentralisés sont au final décentralisés par d'autres moyens. On a vu des NFT qui sont bloqués par des plateformes d'échange, etc. Et donc, la décentralisation, c'est bien en théorie, mais dans la pratique, on se rend compte que tous ces systèmes, c'est comme des failles de sécurité, c'est rarement vraiment, de manière trustless, comme je disais tout à l'heure, vraiment décentralisé, quoi.
Je lisais justement une statistique, alors là ça concernait plus particulièrement le Bitcoin. C'est une étude qui vient du National Bureau of Economic Research, donc une institution officielle aux États-Unis, qui estimait que 27% de tous les Bitcoins en circulation dans le monde sont détenus par 0,1% des propriétaires de Bitcoin. Donc oui, effectivement, quand on parle de décentralisation, en fait on est sur un système qui est quand même très très centralisé.
C'est ça, qui est la centralisation. Parce que en plus, le truc, c'est que la centralisation, elle existe pour une raison. Il y a une affaire d'aspect pratique. Alors là, je parle pas des gens qui possèdent les tokens, mais sur les plateformes d'échange ou d'achat de crypto, ils sont centralisés parce que c'est pratique. Utiliser un porte-monnaie vraiment décentralisé, c'est pas évident. Donc, il n'y a pas que la question théorique à prendre en compte, il y a aussi l'aspect pratique. Et les utilisateurs finaux, pour la plupart d'entre eux, sur les services de crypto comme d'autres services, on est revenu vers de la centralisation parce que c'est pratique. Et oui, le contrôle fait partie de cet aspect pratique. Mais le truc le plus intéressant dont je voulais parler sur les affaires de crypto, c'est le téléphone. Comment il s'appelle ce téléphone de Solana? Damned, j'ai perdu son nom. Je suis sur l'article.
Saga.
De Numérama. C'est le Saga, voilà. Merci, exactement. Un téléphone Web 3.
Est-ce que c'est pas un meilleur nom que Nothing?
Ouais, écoute, je préfère Saga. C'est peut-être tu vois, mon amour pour l'heroic fantasy. Ça fait genre, je sais pas, grande aventure, quelque chose. Ou pour les Nordiques, comme je vis en Finlande. Mais non, je préfère Saga. Mais vous allez me dire, mais un téléphone Web 3, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Eh bien, en fait, c'est pas si bête que ça. Le truc, c'est que les applications qui sont basées sur la blockchain avec des smart contracts, on les utilise essentiellement sur les ordinateurs parce que les téléphones ne sont pas équipés pour les faire tourner du tout. Eh bien, le téléphone de Saga, qui est fabriqué, bon, c'est un fabricant tiers, mais qui est la partie logicielle est gérée par Solana, donc c'est une blockchain. Eh bien, il pourra faire tourner. Il est conçu pour faire tourner des apps basées sur la blockchain. Donc, il sera possible d'avoir un téléphone qui fait tourner des apps basées sur la blockchain Solana. Ce qui est en fait, évidemment qu'il faut, enfin qu'il faut. Si on veut développer la blockchain, dans l'intérêt de Solana, il faudrait qu'on puisse avoir un téléphone qui va faire tourner les apps de notre plateforme. On le sait, les téléphones sont beaucoup plus utilisés pour naviguer sur Internet, pour l'informatique. Le vrai outil informatique aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Donc le fait qu'il n'y ait pas jusqu'à maintenant eu de téléphone qui puisse faire tourner des apps blockchain, c'était certainement une entrave au développement de la chose. Après, est-ce qu'on veut faire développer encore plus la blockchain? C'est une autre question. Mais le Saga, donc, arrivera bientôt. Je suis sûr que Lucie va se précipiter pour l'acheter immédiatement. 1 000 $ aux États-Unis pour début 2023. Si vous voulez l'importer, vous pourrez. Et puis enfin, Microsoft a présenté des nouveautés sur Edge, son navigateur, pour accélérer le cloud gaming de son service Xbox Cloud Gaming, qui est inclus dans le Game Pass. Je voulais l'évoquer, je voulais le mentionner, parce qu'en plus de ça, j'ai utilisé le service de PlayStation, le nouveau service PlayStation Plus, qui intègre les outils de cloud gaming qui existaient déjà ailleurs. Mais en les testant, je me suis rendu compte qu'ils avaient été beaucoup améliorés. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où le cloud gaming devient une vraie option pour le jeu vidéo. Alors, c'est adjacent à la tech, on n'est pas pile dans le sujet, mais je voulais l'évoquer pour que vous vous rendiez compte, ceux qui ne suivent pas ça de près, que le cloud gaming, c'est-à-dire on utilise n'importe quel ordinateur, même pas puissant du tout, et bien on va streamer le jeu vidéo de chez Xbox ou de chez Sony avec sa machine qui est vraiment pas performante, et bien on peut avoir une qualité, si on a la connexion qui suit, une qualité de jeu et un catalogue de jeux qui est vraiment hyper large. Alors il faut être abonné au service d'abonnement de Xbox pour Xbox ou de PlayStation pour PlayStation. Ça coûte, on va dire, je schématise, mais 10 à 15 euros par mois. Mais si on l'a, et ben n'importe quel appareil peut être transformé en machine de streaming vraiment performante. On parle de PC en l'occurrence, c'est aussi selon les services disponibles sur d'autres plateformes, téléphone, télévision, etc. Mais on y arrive. Le futur du streaming, là, vraiment, enfin, c'est même pas qu'on y arrive, c'est qu'on est, on est dedans. T'es pas joueuse de jeux vidéo, toi, Lucie ?
Alors, si, je joue aux jeux vidéo, mais moi, je joue exclusivement sur mes consoles.
Tu fais partie des puristes.
Sur mon PC, ouais. Pas des puristes, mais pour moi, mon PC est mon outil de travail, et du coup, j'ai du mal à associer divertissement avec mon ordinateur fixe. Donc, du coup, ouais, je joue sur ma Switch et ma PlayStation dans mon salon, bien calé sur mon canapé. Donc, du coup, je suis pas trop concernée, en tout cas, pour tout ce qui est sur ordinateur, le cloud ne me concerne pas. Ouais.
Bah, c'est marrant parce que justement, je trouve que si on est, on n'a pas ce genre de d'appareil, eh ben aujourd'hui, comme je le disais, sur n'importe quel ordinateur, même un Mac, rends-toi compte, on peut jouer à quasiment tous les jeux Xbox, enfin tous les jeux qui sont dans le catalogue et tous les jeux Sony aussi, de n'importe où. Donc peut-être que des gens qui n'étaient pas ou qui ont été par le passé il y a longtemps joueurs ou joueuses se retrouveront à avoir accès à ces choses-là alors qu'ils ne l'avaient pas forcément. Bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu. On en parlera un petit peu plus longuement, je n'en doute pas. Et c'est la fin de cet épisode joyeux avec Lucie. Écoute, la prochaine fois, on parlera de licorne et de... je sais pas, de d'arc-en-ciel et ce genre de choses. On essaiera de trouver des
sujets. Non, mais écoute, quand l'actualité est mauvaise, il faut aussi en parler. Hein.
Tout à fait.
Ceci dit, l'attaque est trop optimiste. Il faut aussi apprendre à être pessimiste.
Écoute, je trouve qu'en ce moment, c'est quand même pas non plus. On a peu d'occasions de sourire. Heureusement, on fait ça de manière légère et on essaye de rire un peu, mais bon. Mais on verra ce qui se passe la prochaine fois. Pour le moment, est-ce qu'il y a des trucs marrants dans Règle 30, quand même, dans la newsletter de temps en temps ?
Écoute, mon prochain numéro est justement sur l'avortement, l'avortement et aux États-Unis. Et le précédent numéro était sur le départ de Sheryl Sandberg de Facebook et l'arnaque du féminisme girlboss. Donc non, on rigole pas trop en ce moment sur Règle 30, je t'avoue.
Bon, mais en tout cas...
Mais je précise quand même, je fais juste ma pub, mais vraiment 30 secondes, parce que je sais que tu as un public qui est vachement engagé. Moi, je précise que Règle 30, je parle de nouvelles technologies d'une manière inclusive et féministe. Et c'est à destination de tout le monde, y compris si vous n'êtes pas une femme, pas une personne minorisée, entre guillemets. Et au contraire, moi, j'aime bien parler de mes sujets aux personnes qui ne se sentent pas forcément concernées ou qui n'y réfléchissent pas trop, parce que ce sont des sujets qui nous concernent tous et toutes. Donc, si vous voulez vous abonner, j'en serais très heureuse.
Et je pensais que c'était, oui, évident, mais tu fais bien de le préciser. Règle 30 sur Numérama. Et puis, on mettra le lien vers ton compte Twitter, comme ça, ça... permettra aux gens de repartir dans la galaxie Ronfo et de tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Oui ?
Non, j'allais dire le RCU, le Ronfo Cinematic Universe. Ouais. Qu'est-ce que je fais en ce moment ? J'ai sorti un livre en janvier qui s'appelle Internet aussi, c'est la vraie vie, qui est un livre qui explique les grands enjeux de société et du numérique pour les adolescents. Donc si vous avez des ados dans vos vies, vous pouvez peut-être y jeter un œil, c'est aux éditions La Ville Brûle.
Aux éditions La Ville Brûle. Effectivement, c'est pas hyper, hyper joyeux non plus, là. Mais Internet...
Si. C'est au contraire, avoir un point de vue optimiste et surtout positif et pas méprisant sur les pratiques numériques des ados. Donc, c'est à destination des ados, mais c'est aussi à destination des parents ou de toute personne qui pourrait avoir un ado dans sa vie pour lui parler de sujets comme les biais algorithmiques, la sécurité en ligne, mais aussi des choses plus marrantes comme la K-pop, la politique. Voilà.
Super. Non, je voulais dire La Ville Brûle, c'est ça qui n'était pas... Mais, mais oui, Internet aussi, c'est la vraie vie. Écoute, moi, je serai, alors pas tout de suite, mais bientôt concerné. Et je t'avoue que, je ne sais pas comment, mais je l'ai raté, le fait que tu avais sorti un nouveau livre, après les règles du jeu. La règle du jeu ou les règles du jeu ?
Les règles du jeu.
Les règles du jeu, merci. Mais oui, j'aime beaucoup le titre, parce que ça parle vachement... Internet aussi, c'est la vraie vie. Et ça met tout de suite une chose au clair pour des parents qui peut-être ont tendance à penser le contraire. J'aime beaucoup.
Eh ben, merci. Eh ben, écoutez, voilà. Si tu y jettes un œil un jour, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, voilà, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé écrire et en plus que je défends pas mal en médiathèque et en collège et en lycée. Donc, c'est intéressant d'avoir des retours d'ados sur le sujet.
Eh bien, écoutez, vous l'achetez, vous le faites lire à votre ado et vous allez sur Twitter ou... est-ce que tu es sur TikTok ?
Alors, je suis sur TikTok, mais incognito et
ah oui,
et
non, mais parce que j'allais dire, j'ai commencé à dire, parce que comme ça, les ados pourront venir te dire ce qu'ils en pensent sur Twitter, mais là, je me suis rendu compte que, bah non, ils font pas, tu vois, il faut peut-être aller sur un réseau sur lequel ils sont pour avoir leur avis, donc...
Je suis sur Instagram.
Ah, très bien. Instagram, ça commence quand même à devenir un petit peu le... Il y a tellement... Ça a tellement changé, on en parle de temps en temps ces dernières semaines, hein. Je suis pas convaincu que, à mon avis, il y aura une place à prendre pour le nouvel Instagram, parce que là, tout à coup, Instagram, c'est que des vidéos, c'est que des recommandations de trucs que tu ne suis, de gens que tu ne suis pas forcément, des contenus populaires. C'est plus Instagram. Moi, je.
Alors
je,
après, il y a une nouvelle option hein, qui. Il y a une nouvelle option qui te permet de suivre le fil d'actualité uniquement de tes abonnements, et du coup, moi, je me sers beaucoup de ça.
Ouais, mais ils mettent quand même plein de vidéos, tu vois. Instagram, c'était agréable parce que les belles photos, les beaux. Bah, moi, je suis désenchanté.
Alors, dans le fil abonnement, tu n'as pas de pub, justement.
Non, c'est... pas de pub, mais des vidéos, tu sais, ils poussent leur.
Non, ils ont pas. Non, ils mettent pas de vidéos de. Non, non. D'accord. Non, non, c'est vraiment. Après, ils l'ont en termes du X, ils l'ont bien planqué pour que la fonction soit pas trop populaire, j'imagine. Mais en tout cas, moi, du coup, maintenant, c'est comme ça que je vais sur Instagram. D'accord. Comme ça, je vois les gens que je suis et voilà quoi.
Mais je cherche et je la trouve pas alors. Mon Dieu. Je vois pas du tout.
Ah,
abonnement favori. Non.
Voilà, bah tu normalement, si t'appuies sur abonnement.
Ouais.
Tu n'as que tes abonnements.
Eh ben oui, mais là j'ai ah oui, d'accord, c'est là, OK, je comprends. Tu n'as que tes abonnements. Écoute, moi j'ai des vidéos.
Et donc tu as des vidéos si tes abonnements postent des vidéos évidemment.
C'est ça, c'est ça, oui, d'accord, OK. Ah oui, c'est plus proche de l'ancien flux Instagram effectivement.
Tout à fait.
D'accord, c'est quand on clique sur le logo Instagram, le nom Instagram en haut, on peut choisir abonnement. Ah oui, c'est là qu'il faut aller regarder. Ils l'ont bien planqué.
Voilà, c'est mon petit tip.
Merci. Écoute, précieux jusqu'au bout. Merci beaucoup, Lucie. Et donc, le lien vers son compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Quant à moi, c'est NotePatrick. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et vous pouvez aller aussi sur notepatrick.com pour retrouver la newsletter. Mais vous savez, je dis à chaque fois notepatrick.com. En fait, le lien vers la newsletter, est-ce qu'il est dans les notes de l'émission ? Ben non, parce qu'il faut mettre son adresse email. Donc, allez sur notepatrick.com et vous pouvez vous inscrire pour avoir la newsletter en direct dans votre boîte aux lettres. Faites-le une fois que vous êtes déjà abonné à Règle 30, hein, quand même. C'est la deuxième option.
Merci.
Et puis, vous retrouvez aussi toute la communauté sur Discord. Ça, c'est un endroit super sympa, bien plus sympa que Twitter ou Instagram, pour hangout ensemble. Et vous trouvez aussi les émissions toutes les semaines sur Twitch et en replay sur YouTube. Et ben là, les liens, c'est dans les notes de l'émission. Et puis, je conclue avec le truc le plus important, Patreon, patreon.com/rdvtech. Kling, Patrick, le bol, les cafés, la bière, tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous laisse aller sur patreon.com/rdvtech et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.